Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre église Saint-Paul et Dominicain la présentation de ce livre, le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Donc je pense que vous avez entendu parler. Donc, et nous recevons ce soir M. Samuel Leven. Vous avez été le coordinateur de ce projet. Donc ce M. Christophe Lucet du Sud-Ouest qui animera d'abord le temps des questions et je pense après le temps de questions du public, et nous remercions aussi la librairie Mola qui a permis cette présentation. Vous trouverez, comme vous avez vu peut-être en entrant, à l'entrée de l'église, les livres donc, que vous pouvez vous procurer et les dédicacer. C'est extrêmement heureux que ce livre a permis non seulement de prendre conscience de la situation dramatique des chrétiens dans les différents pays, mais aussi d'en faire un sujet de la discussion publique. Car non seulement nous portons ces communautés chrétiennes dans notre prière, non seulement nous les accompagnons en accueillant par exemple les réfugiés irakiens, mais je pense que c'est extrêmement important que cette action ne soit pas uniquement réservée à l'action confessionnelle. Il s'agit véritablement d'un engagement pour les droits de l'homme, les droits les plus fondamentaux, qui est la liberté de conscience. C'est extrêmement heureux que ce thème de la liberté religieuse, de la condition des croyants dans les différents pays, puisse être le sujet de la discussion. Je remercie encore une fois pour votre présence et je laisse la parole à nos intervenants.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à vous dans cette église. Les rencontres Mola sont le plus souvent dans un autre lieu que vous fréquentez, je pense. Mais je suis très content que cette séance donc avec Samuel Leven puisse se dérouler ici. Nous allons parler de la condition des chrétiens dans le monde. Donc, évidemment, le christianisme français doit se sentir impliqué, même s'il a la chance d'évoluer dans une société certes pas facile, marquée par le laïcisme, mais tout de même un espace formidable de liberté religieuse. Donc évidemment, c'est le point d'où nous partons. Je remercie Samuel Leven, qui est donc un collègue, puisqu'il travaille au journal La Croix. Peut-être que certains d'entre vous sont des lecteurs de La Croix ou sont abonnés, je ne sais pas, j'imagine. En tout cas, donc, ce journal donc, dont la section religieuse est évidemment extrêmement, extrêmement développée. Samuel Leven s'occupe particulièrement donc, dans cette section religieuse de La Croix des questions liées à l'orthodoxie, hein, aux chrétiens d'Orient et à l'orthodoxie. Voilà, donc d'où sa connaissance donc, très, très approfondie de toute une partie de ce gros livre, mais je crois qu'il a aussi, de par son travail de coordinateur de cet ouvrage, évidemment refait son information en détail sur la situation, le sort des chrétiens dans à peu près tous les pays du monde. Je dis à peu près tous les pays du monde car l'enquête dont nous parlons, donc ce livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, touche, si ma mémoire est bonne, près de 140 pays. 140 pays, c'est énorme, ça représente les deux tiers des pays de la planète, donc des pays où le christianisme est implanté. Je rappelle que le christianisme est la première religion en termes de fidèles sur la planète, lorsque l'on additionne toutes ses composantes, catholiques, protestantes, évangéliques, orthodoxes, etc., et toutes les églises autochtones que compte donc le globe. Donc ces 140 pays, donc c'est énorme, et ce sont pour la plupart d'entre eux, des pays où la liberté religieuse est menacée. Alors menacée à des degrés variables, mais menacée parfois à des niveaux qui sont la persécution pure et simple, voire même l'élimination religieuse. Alors, ce livre donc, sur lequel nous allons nous pencher est un livre dont les trois ce ne sont pas les auteurs, mais ce sont les garants de ce projet éditorial. Il s'agit donc d'un évêque français, Jean-Michel Di Falco, qui est actuellement, je crois, évêque de Gap et d'Embrun, et qui est un ancien évêque coadjuteur de l'archevêché de Paris. Le Timothy Radcliffe, qui est un moine dominicain anglais, il est assez connu parce qu'il a dirigé pendant plusieurs années l'ordre des dominicains dans le monde. Voilà, donc il est aujourd'hui retourné en Angleterre dans son monastère d'Oxford.
Mais il n'y est pas souvent.
D'Oxford. Ouais. Mais je crois qu'il est. Oui, voilà. Il n'y est pas souvent parce qu'il est, tout, il est souvent donc, en conférence de par le monde. Voilà. Et également, il m'est d'ailleurs arrivé de le rencontrer. C'était en 2005 à Lourdes. À l'époque, il était prieur mondial des Dominicains. Enfin, il ne l'est plus. Mais en tout cas, il reste extrêmement actif, extrêmement influent. Et le troisième personnage. Donc c'est Andrea Riccardi. Il est italien. C'est un laïc. Il a été ministre des Affaires étrangères. De la coopération internationale dans un gouvernement italien très récent. Mais surtout, il a fondé une communauté qui s'appelle Sant'Egidio, dont le siège se trouve au Trastevere à Rome. Et c'est une communauté qui passe pour être très proche du Vatican, c'est assuré, et également c'est une communauté qui mène des opérations de diplomatie officieuse, elle mène des médiations, mais aussi on en parle on parle de Riccardi comme d'un diplomate officieux de l'Église catholique. Voilà, donc quelqu'un d'extrêmement influent dans la sphère catholique. Voilà, donc ces trois personnages garantit donc la réalisation de cet ouvrage. Ils sont à l'origine de ce projet. Et donc Samuel Liévin, vous êtes la petite main, si j'ose dire. Hein, c'est pas péjoratif du tout. Hein, c'est un énorme boulot puisque vous allez nous expliquer comment ce livre a été conçu et constitué. Parce que vous avez vu, il est très gros. Il fait plus de 800 pages. Il n'est pas très cher d'ailleurs pour ces 800 pages, c'est un détail mais tout de même, parce que si on veut se le procurer, il suffit de débourser 25 euros, ce qui est quand même pas beaucoup.
Pour 70 contributeurs.
Voilà, et alors donc 70 contributeurs, ce qui est venant d'une quinzaine de nationalités, venant du monde entier. Alors vous allez nous expliquer, Samuel, comment vous les avez recrutés, ces collaborateurs, et finalement quelle est l'origine, la genèse de ce projet. Alors on se partage le micro.
Oui, oui. Alors bonsoir, donc pour ceux qui ont peut-être connu il y a 15 ans la sortie du livre Le Livre Noir du Communisme, finalement c'est du point de vue de la maquette, ces deux ouvrages ont une parenté visuelle assez forte. Tout simplement parce que ce n'est pas la même maison d'édition. IXO est une jeune maison qui était fondée en 2000. À l'époque c'était Robert Laffont qui a fait Le Livre Noir du Communisme, mais l'éditeur est le même. C'est Bernard Fixo qui a donné son nom donc, à IXO Édition. Qui voulait clore le XXe siècle en se disant voilà, il faudrait faire au niveau mondial le bilan de ce qu'a été le communisme sur la planète. Il avait donc fait appel à un aréopage d'historiens, une dizaine d'historiens, qui ont dépouillé les archives et qui ont donné ce livre. Ce livre qui était un retentissement mondial à l'époque, et ce qui a aussi inauguré une série de livres noirs d'eux, il y en a eu tout plein, le colonialisme, la psychanalyse, la condition des femmes. Et donc, dans cette série de grandes problématiques planétaires, c'était donc il y a presque 2 ans, on s'est dit, voilà, il y aurait certainement quelque chose à faire sur les chrétiens. Pourquoi ? Parce que l'actualité, elle est malheureusement rythmée très souvent par des événements catastrophiques. En 2010, il y avait par exemple eu l'attentat dans la cathédrale de Bagdad, qui avait fait près de 70 morts, et qui a probablement fait basculer l'opinion. On s'est rendu compte que la question des chrétiens d'Orient, ce n'était pas juste une préoccupation pour une petite famille dans son coin, qu'il y avait vraiment quelque chose de très grave qui se passait. Il y a eu l'attentat d'Alexandrie en 2011, toujours devant la cathédrale d'Alexandrie. Il y avait l'affaire d'Asia Bibi au Pakistan, dont on reparle encore beaucoup aujourd'hui. Il y avait des enlèvements de religion en Afrique, des prêtres assassinés en Amérique latine. La question chinoise, toujours d'actualité, on s'est dit, ça fait énormément d'histoires à raconter, de témoignages à recueillir. On en voit souvent des livres comme ça, mais on s'est dit, face à une actualité pareille, il faut faire plus que raconter, il faut un livre qui, pour la première fois, fasse comprendre. Et c'est là qu'assez naturellement a émergé dans l'esprit de l'éditeur ce livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Alors, l'idée, c'est qu'il fallait... Comme l'a bien expliqué Christophe, il fallait un attelage de tête qui puisse donner un visage à ce livre. Donc c'est Jean-Michel Di Falco, Timothy Ratcliffe et Andrea Riccardi. Mais derrière, voilà, qu'est-ce qu'on met dans ces pages? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se rend? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on met sous la bannière analyse? Qu'est-ce qu'on met sous la bannière témoignage, reportage? Très vite, on a eu cette intuition qu'il fallait faire un livre où on puisse trouver de tout. Au fond, celui qui veut faire un effort de compréhension, bah, il y a des textes, je dirais, un peu plus roboratifs, un peu plus analytiques. Celui ou celle qui veut juste voyager, entendre des voix, eh bien, il y a ce qu'il faut comme témoignage. Et voilà, on s'était dit, on essaiera de sélectionner une quinzaine, une vingtaine de pays, et si on a 30 contributeurs, ce sera déjà pas mal. Un an et demi plus tard, on est à une quarantaine de pays et 70 contributeurs. Donc on a nous-mêmes été au fond, au fur et à mesure qu'on a avancé, ça a vraiment été un travail d'enquête. On a dépêché des journalistes jusqu'en Chine, au Proche-Orient, en Afrique. On a sollicité des chercheurs dans le monde entier. On a nous-mêmes été surpris par la forme que prenait ce livre qu'on voyait finalement enflé sous nos yeux. On a même dû sortir à un moment donné nos gros ciseaux d'éditeur pour le faire maigrir, même si ça ne paraît pas, mais ça aurait pu être beaucoup plus important. On s'est très vite en fait retrouvé face à un travail de sélection drastique, plus que vraiment faire l'effort d'aller chercher des informations, parce qu'il y a pléthore finalement quand on commence à chercher. Le problème, c'est la mise en perspective. Et ce qu'avait comme facilité le livre noir du communisme à la fin du XXe siècle, que n'avait pas celui-ci, c'est qu'on n'est pas sur le bilan de quelque chose de terminé, on est sur la première esquisse d'une question qui est mondiale et qui ne fait que commencer à se dérouler sous nos yeux. Le pape lui-même le redit à plusieurs reprises, la situation des chrétiens aujourd'hui, au seuil de ce XXIe siècle, est probablement pire qu'elle ne l'était encore dans les premiers siècles du christianisme. 150 à 200 millions de chrétiens qui ne vivent pas leur foi librement, parce que c'est ce qu'on a tenu à préciser, c'est pas le livre noir de la persécution, c'est que c'est 150 millions à 200 millions de chrétiens qui ne vivent pas librement leur foi, ça veut dire que ça va de la simple discrimination jusqu'à, comme tu l'as dit, l'élimination. Il fallait donc derrière étayer ces données qui sont a priori incroyables.
Alors donc les chiffres évidemment sont saisissants, entre 150 et 200 millions de personnes qui donc sont empêchées de vivre librement leur foi, c'est énorme. Il est à plusieurs reprises souligné que la religion chrétienne au sens large est de fait la plus persécuté dans le monde. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que les autres croyants, les fidèles d'autres religions, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes et autres, n'ont pas évidemment leur lot de persécutions. Je crois que le livre est assez clair là-dessus. Ouais, et les chiffres ont leur importance, mais il ne faut pas leur accorder non plus une importance démesurée, parce que si l'on prend par exemple le nombre de morts que font les persécutions tous les ans, les chiffres sont très variables. Donc, Samuel, vous m'avez dit, on n'a pas l'intention de s'engager vraiment sur les chiffres, parce qu'on se contente de donner les différentes sources qui citent des chiffres, mais de toute façon, alors peut-être un commentaire là-dessus, parce que...
Oui, c'est vrai que les 150 à 200 millions, comment on les explique quand même? C'est une comptabilité de bon sens. On se rend dans les pays où il y a une minorité chrétienne ou une population quand même consistante, et si on les met bout à bout, tous ces pays où ça se passe mal, sauf l'Amérique latine, qui est un cas particulier où effectivement les prêtres, les pasteurs, des laïcs payent ou de leur vie ou par des menaces ou des intimidations leur engagement auprès des plus pauvres. Et ça, c'est quand même un cas à part, puisque c'est un continent fondamentalement chrétien et ce n'est pas vraiment une persécution. C'est plus finalement les conséquences d'un engagement dans la société. Si on prend les autres, donc, c'est-à-dire le Proche-Orient, où qualitativement le niveau de persécution est fort, mais la population chrétienne est faible. L'Afrique subsaharienne, où le christianisme connaît une véritable explosion démographique qui le met au coude à coude avec l'islam et qui rend donc cette région particulièrement cruciale pour les décennies à venir. Et l'Asie, avec surtout la Chine, où le nombre de chrétiens varie, alors là c'est de 40 à 100 millions, parce que ce sont essentiellement, à part les 12 millions de catholiques, des églises évangéliques souterraines, ça on en parlera plus tard, les 20 millions d'Indiens, parce que 2% de la population indienne, ça fait quand même 20 millions. Voilà, on arrive 150 à 200 millions de chrétiens qui ne vivent pas leur foi librement. Sur les morts, c'est vrai que c'est John Allen, le grand vaticaniste américain, qui a fait un peu le papier de lancement de ce livre. Il donne une fourchette, parce que là, c'est impossible à vérifier. On ne peut pas enquêter sur chaque mort, savoir si vraiment c'est parce qu'il était chrétien qu'il a été tué. Ça va de 10 000 à 100 000. si on suivant les différentes comptabilités qui ont pu être établies. Nous, les chiffres, on les a repris à la fois du Pew Research Forum, qui est un grand institut américain qui fait autorité dans ce domaine. Il y a aussi les différentes associations, mouvements confessionnels comme l'aide à l'Église en détresse, son pendant protestant Portes ouvertes, l'œuvre d'Orient qui n'a pas vraiment d'appareil statistique. Voilà, donc ça aussi, ce sont quand même des chiffres importants. Et donc, c'est en se basant sur ces différentes sources qu'on a pu quand même apporter quelques chiffres, parce qu'il en faut toujours.
S'agissant des chiffres et des fourchettes parfois très imprécises, je voulais revenir sur la Chine, donc entre 40 et 60 et 100 millions de chrétiens en Chine. J'ai parlé il y a tout récemment à notre correspondant Eric Meyer, qui est le correspondant sud-ouest à Pékin, qui me disait que la communauté chrétienne chinoise était en passe de devenir la première du monde. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas étayé par un appareil statistique bien précis, mais le chiffre de 100 millions est probablement sous-estimé, ce qui d'ailleurs explique à la fois le dynamisme de ce christianisme chinois, même s'il n'est pas visible, mais également aussi le niveau de brimade qu'il endure, puisqu'en fait le parti communiste chinois qui est toujours au pouvoir évidemment est de plus en plus inquiet de cette concurrence qu'il considère comme une concurrence idéologique, même s'il ne s'agit pas de ça. Voilà pour les chiffres. D'ailleurs, le cas chinois est peut-être intéressant. Je ne sais pas si tu souhaites commencer par là ou peut-être parler.
On peut commencer par la Chine, pourquoi pas.
Vous attendez peut-être plutôt à ce qu'on commence par l'Irak. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire quand même, parce que néanmoins, le cas irakien, évidemment, est dans l'actualité depuis déjà plusieurs années. On a parlé à l'instant du massacre de la cathédrale de Bagdad, mais il faudrait parler de ce qui s'est passé à partir du 10 juin 2014, avec la prise de Mossoul par les troupes de l'État islamique, et ultérieurement tout ce qui s'est passé dans le nord de l'Irak, et en particulier dans la plaine de Ninive, qui est la plaine où se trouvaient les communautés chrétiennes les plus importantes. Je pense à Karakoch, je pense à des endroits comme ça, où les chrétiens donc ont été ou chassés ou tués pour laisser place donc à une seule religion là, donc, et encore une partie de la religion musulmane, puisqu'il s'agit du sunnisme et de sa version la plus étroite. Voilà. Donc peut-être l'Irak. Alors là, on est. Je dirais que l'Irak, c'est peut-être évidemment le cas le plus préoccupant, puisque là, on a affaire. C'est peut-être pas exagéré de parler d'un génocide religieux.
Oui, c'est ça, vraiment un processus de purification religieuse qui est en œuvre en ce moment sur le terrain. En fait, l'Irak a malheureusement confirmé notre intuition un an et demi après le début du livre. On était en bouclage cet été, pour parler concrètement. Et à ce moment-là, le monde découvre avec effroi l'existence de l'État islamique. On est au mois de juin, au moment de la prise de Mossoul. Mossoul qui restait quand même, c'est la grande capitale du nord de l'Irak. Les chrétiens sont vidés de Mossoul, ils se réfugient dans Karakoch, qui est une ville d'à peu près 50 à 100 000 habitants, dans la plaine de Ninive, pas très loin de Mossoul. Et Karakoch, ayant d'un seul coup grossi de tous ces chrétiens arrivés de Mossoul, se retrouvait être la plus importante ville chrétienne d'Irak au début de l'été dernier. Qu'est-ce qui se passe début août Pour le coup, en tant que contributeur, enfin coordinateur de ce livre, c'était assez saisissant d'être plongé là-dedans, parce que, en tant que journaliste, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner la délégation du cardinal Barbarin, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin juillet, qui s'était rendu avec Pascal Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient, sur place. Nous étions allés à Erbil. D'Erbil, escorté par les Peshmerga kurdes, nous sommes allés à Karakoch, qui était censé tenir en réalité. C'était la dernière citadelle chrétienne qui semblait relativement imprenable avec ses soldats kurdes bien entraînés qui étaient là. On a rencontré les chrétiens sur place qui étaient toujours 2 mois après avoir été chassés de Mossoul avec la même chemisette sur les épaules, plus rien, qui avaient passé les checkpoints de l'État islamique en se faisant dépouiller d'absolument tout, sans du tout renier leur foi. Il leur aurait suffi juste de prononcer ce qu'on appelle la shahada, c'est-à-dire cette profession de foi musulmane en quelques mots, et pouvoir finalement retourner chez eux. Aucun ne l'avait fait. Et donc, ils étaient là. On les a rencontrés rapidement, quelques heures. On est rentré à Erbil. De là, on a pris l'avion, on est rentré à la maison. 3 jours après, c'était le blitz islamique islamiste dans cette zone, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que les gens qu'on a vus là, il n'y avait plus rien dans les rues. La cathédrale de Karakoche qui était pleine à craquer avec ses chants en araméen, les mêmes depuis des siècles, puisqu'il y a quand même une présence chrétienne presque bimillénaire dans cette région où l'on parle la langue qui est la plus proche, hein, le haut sourette qui est un dérivé de l'araméen, la plus proche de la langue que parlait le Christ. Et aujourd'hui, cette région est complètement vidée de ses chrétiens, avec les drapeaux noirs de l'État islamique qui flottent sur tous les bâtiments, en particulier religieux, les croix abattues, les églises plus ou moins démolies ou amochées selon les lieux. Et voilà. Et aujourd'hui, il se retrouve à Erbil. Et cette plaine, aujourd'hui, est complètement vidée. C'était la dernière véritable présence chrétienne importante dans le pays. Si cette plaine n'est pas sécurisée dans les mois qui viennent, clairement, c'est sans précédent historique. Le fil de l'histoire sera rompu et il n'y aura plus moyen de pouvoir réintroduire une véritable présence chrétienne dans cette région. Ce qui fait aujourd'hui de l'Irak, malheureusement, la pointe avancée de ce processus d'éradication du christianisme dans cette région. Aujourd'hui, on peut considérer que peut-être l'opinion occidentale est en train d'en prendre conscience. Elle s'en est émue cet été. Le problème, c'est qu'elle ne s'en émeut jamais très très longtemps. Mais la situation, là, pour le moment, reste désespérée. Et même les évêques et les patriarches sur place, qui sont quand même des gens dont le discours n'est jamais vraiment celui de l'abattement, qui essaient de retenir pour autant que possible des familles qui n'ont tout simplement pas envie de mourir sur place et qui ne demandent aujourd'hui qu'à partir, ils nous tiennent très rarement le discours du défaitisme. Et pourtant, eux-mêmes aujourd'hui sont particulièrement inquiets. Monseigneur Moshe, qui était l'archevêque de Mossoul, que nous avons rencontré à Karakoche quelques jours avant l'arrivée de l'État islamique, nous a dit au téléphone, juste après cette invasion, nous a dit « cette fois c'est fini ». C'était le matin même, la nuit, il avait lui-même reçu dans son bureau les responsables kurdes, leur disant « nous, on ne tient plus la ville, on va devoir partir ». Et donc il a dû communiquer au reste de la population qui, à pied, en voiture, en pleine nuit, s'est retrouvé avec femmes et enfants, se sont retrouvés donc à devoir rejoindre l'intérieur du Kurdistan. Il avait la voix blanche le matin, c'était probablement la pire nuit de son existence. Et lui-même, qui était plein d'énergie dans cette cathédrale de Karakoche, encore une fois pleine à craquer la semaine précédente, nous a dit « voilà, cette fois c'est la fin ». Donc ça, c'est la situation de l'Irak aujourd'hui.
Alors c'est évidemment la situation la plus dramatique. Pour rester sur ce registre encore quelques instants, excusez-nous, mais le sujet n'est évidemment pas drôle. La Syrie voisine connaît une situation qui est à peine meilleure. Oui. C'est-à-dire que la présence chrétienne en Syrie est aussi ancienne. Elle est plus importante, elle est proportionnellement plus forte dans un pays dans cette Syrie de 20 millions d'habitants où la proportion de chrétiens oscille entre 7 à 10%, disons. Aujourd'hui, ces chiffres, personne ne s'avancerait à annoncer les chiffres. Étant donné qu'un tiers de la population syrienne est réfugiée dans les pays voisins, notamment le Liban, la Turquie, la Jordanie. Donc, bien malin qui peut dire que d'abord quand la guerre de Syrie s'achèvera et quand les réfugiés pourront rentrer chez eux. Toujours est-il que les chrétiens spécifiquement, alors là en l'occurrence, ils ne sont pas les seuls à souffrir de la guerre civile, loin de là, mais évidemment, ils sont particulièrement ciblés dans les zones où ils vivent, puisque de par leur confession. S'agissant de la situation syrienne, le problème spécifique des Syriens, on le sait, c'est d'avoir toujours cru, en tout cas toujours pensé, que la dictature des Assad, qui règne en Syrie depuis 50 ans, était une sorte de moindre mal, disons, de moindre mal, dans la mesure où cette dictature étant exercée elle-même par une minorité, les autres minorités pouvaient, d'une certaine façon, vivre un petit peu moins coincées dans un pays comme la Syrie. Alors évidemment, ils payent cela très cher, puisqu'ils sont spécifiquement visés par les groupes islamistes il y a un témoignage assez frappant qui vient, je crois, d'un ancien otage italien qui raconte ça très bien.
Oui, justement, deux mots simplement sur la Syrie, c'est qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir le texte de Domenico Chirico, qui est un grand reporter de guerre à la Stampa en Italie, qui a déjà été enlevé à deux reprises, une fois en Afrique subsaharienne, mais ça ne l'a pas empêché de remettre le couvert au Proche-Orient, et il a été enlevé en Syrie par Al-Nosra. Al-Nosra qui est quand même la branche syrienne d'Al-Qaïda, Al-Nosra qui, dont la simple prononciation pouvait faire trembler il y a encore un an, mais qui aujourd'hui est largement doublé sur son aile droite par l'État islamique. Il a donc passé 6 mois dans une ferme entre les mains des miliciens d'Al-Nosra, donc sur la partie islamiste de la rébellion syrienne. Dans cette ferme, il a été, il raconte ça très très bien, il était entre les mains d'un émir, d'un pseudo-émir, qui avait lui-même égorgé toute la famille de propriétaires chrétiens de cette ferme où il était retenu. Il a des pages absolument saisissantes là-dessus, et aussi de ses dialogues avec l'émir. Et l'émir, à un moment donné, a cette phrase qui dit tout, qui dit au fond, tu es un occidental, tu fricotes avec ces chrétiens qui sont ces chiens qui ont soutenu Bachar. Et là, vraiment, ça en dit très très long sur le processus d'assimilation systématique du chrétien comme cinquième colonne de l'Occident. Et au fond, tout ça, dans l'esprit de ces terroristes, c'est une seule et même chose. Le chrétien, c'est l'occidental, c'est les États-Unis. On le retrouve aussi d'ailleurs avec le magnifique témoignage de l'ancien archevêque de Mossoul, Monseigneur Kasmoussa, qui se retrouve aussi à un moment donné dans une arrière-cuisine avec un couteau sur la gorge. Et la même chose, tu as collaboré avec les Américains, alors que finalement, lui, comme arabe irakien, il est plutôt, comme tout le monde, musulman ou chrétien, très remonté contre l'invasion américaine de 2003. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'esprit des terroristes islamistes. Le chrétien, c'est la cinquième colonne de l'Occident, et donc c'est pour ça qu'il paye essentiellement. Et là, on le retrouve vraiment dans ce témoignage saisissant en Syrie, accompagné de l'analyse magnifique d'Ala Khodmani, qui a reçu en 2012 ou 2013 le prix de la presse diplomatique en France, qui est syrienne, et qui aujourd'hui encore prend régulièrement le voile pour se rendre en Syrie et carrément aller se promener à Raqqa, qui est la capitale syrienne de l'État islamique, où il ne fait pas bon se promener, en tout cas si nous on y allait comme ça, on n'est pas sûr de revenir. Et elle est donc en mesure elle-même de se fondre dans la foule, et aujourd'hui encore, elle est probablement la journaliste la plus informée sur la question en France, et bien d'aller se rendre compte directement sur place de ce que c'est au fond que ces zones de la Syrie et de l'Irak qui sont aujourd'hui sous la coupe de ces terroristes de l'État islamique.
Alors on l'a dit, le christianisme du Proche-Orient est un christianisme autochtone, hein, c'est-à-dire qu'il est évidemment présent depuis la nuit des temps, et en tout cas depuis 2000 ans. Cette réalité a fini quand même par s'imposer, on a fini dans les pays occidentaux par s'en rendre compte, même si ça a été long. Toutes les situations ne sont pas aussi dramatiques que celles de la Syrie et de l'Irak. Peut-être on pourrait dire un mot de la situation en Égypte, parce qu'elle est intéressante, parce que la situation égyptienne, c'est un pays extrêmement peuplé, dont 10% de la population est copte, donc chrétienne, copte catholique ou copte orthodoxe. On n'est pas du tout dans le même cas de figure, de par le nombre des chrétiens qui y vivent, de par évidemment leur implantation, leur répartition aussi dans l'espace égyptien, et puis aussi l'importance de la diaspora, qui est un grand soutien pour ces communautés. Cela dit, ça serait intéressant de dire un mot, quels sont en Égypte aujourd'hui, il y a 4 ans, je n'ai pas une grande mémoire des dates, à la cathédrale, à l'église d'Alexandrie, donc c'était en janvier 2011, voilà, merci. Janvier 2011, il y a bientôt 4 ans, donc un attentat le jour de l'an, je crois, devant l'église d'Alexandrie, qui a fait beaucoup de morts. Donc des phénomènes comme celui qu'on a vu à Bagdad, il y en a aussi en Égypte, mais moins nombreux. Néanmoins, il y a eu beaucoup de, notamment depuis la révolution de 2011, d'exactions souvent très graves contre des villages chrétiens, contre des maisons de chrétiens. Alors, comment la situation se présente de façon un peu plus précise en Égypte par rapport dans le cadre de ce christianisme autochtone qu'on est en train de décrire?
Alors, c'est vrai que l'Égypte, c'est la particularité aujourd'hui d'être la minorité chrétienne la plus importante au Proche-Orient, hein, puisque tu l'as rappelé, donc ça va de 8 à 12 millions plus ou moins de coptes, sachant que la fraction catholique des coptes, hein, qui sont des orthodoxes, c'est très peu, c'est 200 000 à 300 000 personnes. Alors, c'est vrai que les coptes, durant toute la période révolutionnaire qui a commencé en 2011, c'était très compliqué pour eux parce qu'ils étaient dans une sorte de, de statu quo avec le pouvoir en place, qui ne leur faisait pas forcément de cadeaux, mais qui voilà, tenait la situation à peu près stable. Je ne m'y suis pas rendu depuis 2011, mais à l'époque, on voyait bien juste avant la révolution, on était au maximum de l'enfermement des esprits, c'est-à-dire que les Coptes là-bas, c'est vraiment, on compense la difficulté à s'insérer dans la société, les discriminations qui sont quotidiennes, l'impossibilité de faire carrière dans l'administration, dans l'armée, de trouver un job, pour les jeunes filles de circuler sans voile dans la rue. Donc ce qui fait qu'il y a un processus de communautarisation très très forte qui était très observable à ce moment-là. Et qui donc donne lieu comme ça de temps en temps à des flambées de violence, mais qui ne correspond pas non plus à un programme d'éradication des Coptes en Égypte. On ne peut pas dire ça. Il y a de temps en temps, parfois ça arrive, des chasses à l'homme dans un village parce qu'il y a eu un couple chrétien-musulman, et donc évidemment ça, tout de suite ça flambe. Il y a de temps en temps une église qui est incendiée, un attentat impressionnant comme celui d'Alexandrie. Mais c'est sur le fond d'une situation qui est, encore une fois, une communautarisation très forte. Alors on a envoyé sur place Christophe Ayad, qui lui-même a des origines égyptiennes, qui est allé rendre compte de manière très fine de ce processus en Haute-Égypte, parce que c'est là que c'est le plus palpable, beaucoup plus encore qu'au Caire. Et on voit bien comment, en réaction à cette difficulté, encore une fois, à s'insérer dans la société, les villages se referment sur eux-mêmes, les chrétiens ne vivent de plus en plus qu'entre eux, et au fond, ce sont deux parties de la société égyptienne qui se dressent l'une contre l'autre, et on sent bien qu'aujourd'hui, finalement, la situation a tendance à revenir à ce que c'était avant les troubles révolutionnaires.
Alors, donc, on pourrait évidemment détailler pays par pays, mais on ne va pas le faire. Il y a la Jordanie, il y a bien sûr la Palestine. Des situations quand même très différentes, mais tout de même avec des similitudes assez fortes, et qui toutes les communautés vivent d'une façon ou d'une autre une sorte d'apartheid social, ou en tout cas de grandes difficultés, ne serait-ce qu'à construire un lieu de culte, obtenir des autorisations, par exemple, pour construire un lieu de culte.
Ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup, ça, par exemple, en Égypte, c'est particulier. C'est-à-dire que c'était très facile, évidemment, de construire des mosquées, ça, elles poussent comme des champignons. En revanche, pour une église, c'est énormément d'autorisations. Et en même temps, ça se fait à l'oriental, c'est-à-dire que c'est toujours des situations de fait. Donc c'était intéressant, par exemple, dans la banlieue du Caire, il y a un évêque, ça s'appelle le quartier du 6 octobre, dans le sous-sol de son évêché, il a une église magnifique, tout est marbré, ça ne sert pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de messe dedans. En revanche, la femme de ménage passe régulièrement, les portes sont prêtes à être ouvertes, mais c'est secret, c'est tenu secret. Mais de temps en temps, il sait que voilà, il y fait venir du monde, il voit comment au niveau sécurité ça se passe, est-ce qu'il se fait tenser ou pas, et on voit la même chose aussi dans un village dans une oasis à Fayoum près du Caire, c'est la même chose, mais là c'est version petite église dans un petit village. À partir du moment où quelque chose est faisable et que les autorités n'interviennent pas, on va recommencer, on va le faire une deuxième fois, une troisième fois, et c'est comme ça que peu à peu on parvient à occuper le terrain. Mais c'est toujours comme ça sur fond de tension, parce que, effectivement, c'est pas aussi facile d'ouvrir une église que d'ouvrir une mosquée. Alors, l'autre point aussi, c'est intéressant, tu parlais de la diaspora. C'est vrai que ça fait beaucoup de départs, du coup, contraints. Souvent, c'est quand même ceux qui ont le plus de moyens qui parviennent à partir. Cela dit, pour l'Égypte, il se passe quand même pas en Égypte. C'est pour ça qu'on a voulu avoir cette vision bien, bien fine, pays par pays. On peut pas dire que l'Égypte se vide des Coptes comme l'Irak se vide aujourd'hui. Un chiffre, l'Irak c'était 1,2 million de chrétiens en 2003, aujourd'hui eux disent 300-400 000, en réalité c'est plutôt 150-200 000. On n'est pas sur la même pesée. En Égypte, on ne sait pas fondamentalement. Mais la population copte est quand même suffisamment importante, suffisamment répartie sur le territoire, avec des relais dans la diaspora suffisamment puissants pour pouvoir quand même se maintenir, avoir des postes d'influence dans la société, participer à la vie politique. On n'est pas du tout sur le même schéma.
fut un temps d'ailleurs où le ministre des Affaires étrangères était un copte en Égypte. Il a d'ailleurs, on le connaît, Boutros Ghali, qui a été ensuite le président, le patron de la francophonie. Je ferme la parenthèse pour dire que on pourrait évidemment continuer sur le Moyen-Orient, mais on peut peut-être s'arrêter un instant pour parler des raisons quand même. Parce que finalement, pourquoi, c'est quand même une question qu'on peut se poser, cette religion chrétienne est quand même très répartie dans le monde, elle est très nombreuse, elle est partout. Pourquoi y a-t-il, puisque on dit que les trois quarts des persécutions religieuses dans le monde sont dirigées contre les chrétiens, pourquoi cette religion particulièrement attire-t-elle autant de persécutions? Pourquoi plus que l'islam? Pourquoi plus que l'hindouisme? Pourquoi plus? Expliquez-nous.
Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée tout au long de la... Je pense que c'est Andrea Riccardi qui le dit de la manière la plus convaincante et la plus directe. Au fond, le chrétien, quel que soit le mode de répression qu'il subit, quelque endroit du globe, il a une manière de vivre, d'entrer en interaction avec le reste de la société, une forme d'ouverture qui, du coup, contrevient à la plupart des intérêts locaux, des volontés de puissance, qu'elles soient motivées par religieusement, politiquement, économiquement. Le chrétien, c'est l'empêcheur d'opprimer en rond. Le chrétien, c'est, sauf exception, on peut toujours en trouver, c'est celui qui fondamentalement refuse d'entrer dans une logique de conflit. Même en Irak, par exemple à Karakoche précisément, quand il y a eu des échanges entre le cardinal Barbarin et les Irakiens qui s'étaient fait chasser de Mossoul, la seule fois où on a abordé la question d'une milice, tout le monde était contre. Fondamentalement, on a affaire à des minorités sans territoire, des armées, sans chef, mais qui ne cherchent pas non plus spécialement à réunir une armée, à se défendre par les armes. On n'est pas dans une logique, encore une fois, de conflit. Donc il y a, et ça c'est un dénominateur commun, je pense, à toutes les situations.
Juste une parenthèse, je réagis sur l'histoire des milices. Ouais. On se souvient quand même de la guerre du Liban. Entre 75 et 90, pendant 15 ans, les Libanais se sont entretués. Et là, pour le coup, la communauté chrétienne s'était organisée. Elle aussi organisée. Il y a eu des phalangistes. Il y a eu des groupes chrétiens surarmés, même surarmés, qui ont participé au massacre.
Oui, voilà.
Alors par contre,
c'est pareil.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que on aurait pu penser qu'en Syrie, ça aurait été la même chose. C'est un pays qui ressemble beaucoup au Liban, qui en est d'ailleurs le prolongement. Et or les chrétiens syriens, pendant la guerre actuelle, donc, ont jusqu'à présent refusé de s'organiser en milice.
En Irak, pareil. Oui, il y a eu l'exception libanaise. Même aujourd'hui, quand on discute avec des Libanais, la plupart vous disent, mais heureusement quand même qu'on a un petit peu montré l'écrou, sinon aujourd'hui on n'existerait probablement plus. Et aujourd'hui encore, on sent bien que cette grosse minorité libanaise, mais le Liban est un tout petit pays, mais avec ces 30% de population chrétienne, donc évidemment c'est l'exception dans le paysage proche-oriental. C'est en proportion, pour le coup la minorité la plus importante, c'est en valeur absolue en Égypte. Mais eux-mêmes ressentent, avec plus d'un million de réfugiés sur leur territoire, imaginez un peu un petit territoire avec 4 millions d'habitants, ce que c'est que d'accueillir 1 million de réfugiés. C'est comme si en France on accueillait entre 15 et 20 millions de réfugiés sur notre territoire. Donc ça remet en cause de manière drastique les équilibres confessionnels qui sont déjà très très fragiles. Et donc les chrétiens eux-mêmes commencent à ressentir une forme de tension dans la société libanaise. Mais ça, c'est un autre point. On était en train de parler de ce qui faisait que... Voilà.
Pourquoi?
Et donc ça, c'est vraiment... Je crois qu'il y a un dénominateur commun qui court finalement de l'Amérique latine, où encore une fois, on n'est pas dans un régime de persécution, de discrimination, mais de conséquences d'un engagement dans la société, jusqu'en Chine, où on va en parler plus tard, c'est un pouvoir qui craint finalement pour son monopole, ou au Proche-Orient, ou en Inde, où la petite minorité chrétienne, 2% de la population, est très investie dans les réseaux d'éducation, sanitaire, etc., etc., et que les hindouistes, les nationalistes hindous, craignent aussi pour leur monopole et prennent ça comme une forme d'invasion de l'intérieur. Le chrétien, c'est vraiment celui qui, encore une fois, représente ce rapport à l'autre, cette ouverture à l'altérité qui dérange où qu'on se trouve.
Au fond, c'est le problème de la liberté, de la pluralité, du pluralisme religieux qui se pose. C'est bien ça.
Alors, d'où justement, et c'est intéressant, le texte du philosophe athée André Comte-Sponville, qui est finalement celui qui prend la liberté d'emmener la question sur le terrain de la civilisation, le mot qui fait peur. Et pourtant, c'est bien ça, c'est la civilisation mondiale dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Elle n'est pas, elle n'est pas simplement réservée à l'Occident, c'est-à-dire cette civilisation fondée sur des valeurs qui sont celui du pluralisme, de la démocratie, de la citoyenneté. Et bien, les chrétiens portent cet idéal partout où ils se trouvent, et c'est bien, à travers le sort qui leur est fait, c'est cette civilisation mondiale-là qui est mise en péril. Et c'est la question que pose le livre. Quand on dit une civilisation en péril, c'est pas de manière un petit peu grossière uniquement dresser l'Occident contre l'Orient, ça n'aurait pas grand intérêt. C'est bien ça qui est en jeu. C'est un enjeu civilisationnel à travers ce que le christianisme apporte aux sociétés là où il se trouve.
Alors il y a peut-être un pays dont on peut parler qui illustre assez bien ça, c'est la Turquie. Pourquoi la Turquie ? Parce que la Turquie était encore, il y a un siècle, un pays de grande présence chrétienne. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était un pays où le christianisme était extrêmement répandu. Et d'ailleurs, c'est la terre d'évangélisation de Saint Paul, la première, en tout cas toute sa partie sud et est. Alors aujourd'hui, il reste, il y a 80 millions d'habitants en Turquie, il y a 0,1% de chrétiens. Je crois que c'est environ 80 000 à peu près, avec répartis d'ailleurs en une poussière de confessions, puisque là, on a à peu près toutes les confessions possibles et imaginables, un peu comme au Liban. Alors le pape s'est rendu il n'y a pas très longtemps, il est allé rencontrer le patriarche orthodoxe de Constantinople, enfin pardon, de Constantinople, oui, Byzance, Istanbul. Voilà, et alors comment ça s'est passé ? Parce que que dit le patriarche de cette situation où finalement les chrétiens sont réduits à leur plus simple expression, où il n'y a pas une persécution comme ces persécutions dont on vient de parler, mais il y a quand même une situation qui est quand même assez embêtante, très ennuyeuse, parce qu'il y a quand même un empêchement de se développer pour ces communautés.
Oui, oui. Alors c'est vrai que la Turquie, finalement, elle résume bien son parcours depuis un siècle, est au fond à l'image de ce qui est en train de se jouer en ce moment sous nos yeux. On avait, il y a un siècle en Turquie, la plus importante minorité chrétienne du Proche-Orient. C'était il y a un siècle, c'était à peu près 20% de la population. Il y a eu ensuite donc des événements dramatiques successifs, notamment le massacre, le génocide arménien en 1915, le grand échange de population entre Grecs et Turcs en 1923, qui fait que cette population a complètement fondu, et aujourd'hui, on a affaire à un patriarche qui est quand même le numéro 2, le personnage numéro 2 de la chrétienté, Bartholomée Ier, qui a accueilli donc le pape à Istanbul le mois dernier, qui en fait est une sorte de curé de campagne, comme c'est le patriarche de Moscou qui s'en moque un peu comme ça, avec 2000 âmes grecques orthodoxes, réparties autour de son patriarcat, qui est une espèce de petite forteresse dans un quartier qui était auparavant le quartier grec orthodoxe d'Istanbul, et qui est censé ensuite, de par la tradition, qui est le premier personnage de l'orthodoxie mondiale, qui représente à peu près 250 à 300 millions de croyants, et voilà, et qui est enfermé là, avec même pas la possibilité de former son propre clergé, puisque le séminaire de Halki est fermé depuis 1975 et les autorités turques refusent de le rouvrir malgré toutes les démarches diplomatiques régulièrement entreprises. Et donc on n'est pas sur un régime de persécution, encore que. Et c'est là que c'est très intéressant, on a demandé à un Italien qui connaît très bien la question de plancher sur l'assassinat de trois personnalités en Turquie. Randing, qui était un grand éditorialiste, qui donc a été assassiné
d'origine arménienne.
D'origine arménienne, qui était assassiné, je crois, en 2005. Luigi Padovese, qui était un prêtre. Encore un autre évêque, qui était aussi d'origine italienne, qui était assassiné en 2007. Lui, c'était par son chauffeur. L'autre, c'était à Trébizonde, soi-disant par un fou. Mais à chaque fois, c'était ça. L'enquête policière dit, voilà, c'est un acte isolé, c'est un fou. On a même essayé de charger l'évêque avec une histoire de mœurs derrière. Comme ça, ça permettait de faire accélérer l'enquête et de conclure aussi à quelque chose de finalement isolé. Et là, l'idée, c'était pas de contredire ou de les enquêtes policières. C'était de se dire, au fond, que représentent ces personnalités pour la Turquie d'aujourd'hui. Et on est sur la même chose, c'est-à-dire des personnalités fondamentalement d'ouverture, qui étaient des personnalités publiquement engagées, qui représentaient au fond ce qui continue de faire peur encore à cette Turquie qu'il n'y a pas si longtemps tapé avec frénésie aux portes de l'Union européenne, qui est la promotion d'une société plurielle, démocratique, où la citoyenneté soit la même pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, voilà, ces trois personnalités-là ont été éliminées parce qu'elles étaient gênantes. Et donc, sans faire concurrence à l'enquête au plan judiciaire, cet essai rend très bien compte de ce qui se joue aujourd'hui en Turquie et de ce que la société turque a perdu avec l'assassinat de ces trois personnes. Voilà pour la particularité turque.
Alors, il y a un autre pays qui nous intéresse, c'est l'Algérie. Où donc des communautés chrétiennes vivent et existent. Alors peut-être, tout le monde se souvient évidemment de l'assassinat des sept moines de Tibehirine en 1996, dont on a reparlé tout récemment, puisque un juge d'instruction français s'est rendu en Algérie il y a trois semaines à moi pour réaliser des expertises de médecine légale pour arriver à comprendre ce qui avait pu leur arriver. Il est rentré en France sans vous avoir pu ramener les échantillons, ce qui montre le degré de collaboration des autorités algériennes sur ce sujet. On sait que le crime commis contre ces sept moines semblerait impliquer directement des cercles des renseignements algériens ou de l'armée algérienne. En tout cas, c'est une supposition assez étayée. En tout cas, ces communautés chrétiennes donc, qui existent ont pu continuer quand même d'exister, mais il y a un phénomène particulier en Algérie, comme d'ailleurs dans d'autres pays, c'est un phénomène de prosélytisme, en tout cas d'évangélisation, puisque la partie la plus dynamique du christianisme, de ce petit christianisme algérien, ce sont des évangéliques, et qui eux, donc, tentent de répandre la bonne parole, alors que d'autres communautés, elles, se sont plus discrètes et fonctionnent davantage sous le plan du témoignage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une clé pour essayer de comprendre les persécutions qui se déroulent dans certains pays, et en particulier en Algérie ?
Alors, c'est vrai que nous, fondamentalement, on a eu une démarche, on n'a pas voulu, encore une fois, faire de différence entre celui qui est persécuté est catholique, orthodoxe, protestant ou évangélique. Tous les chrétiens, on voit au chapitre dans ce livre. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un phénomène particulier au Maghreb, au Proche-Orient, c'est la différence de sensibilité entre les évangéliques qui sont par nature beaucoup plus démonstratifs dans l'attestation, dans l'évangélisation frontale. Et donc, dans un pays comme l'Algérie, où les catholiques, au fond, sont réduits vraiment à peau de chagrin, ils sont 2000, il y a quelques dizaines de milliers d'évangéliques, et c'est vrai que du coup, cette manière de faire, dans un pays où quand même où l'islam domine et où c'est la religion officielle, où les conversions sont réprimées, etc., etc., c'est forcément de nature à faire retomber la répression sur l'ensemble des chrétiens parce que les autorités font pas la différence. Ça, c'est vrai que c'est un phénomène dont on a du mal à faire parler. C'est assez délicat quand on appelle là-bas pour essayer de rendre compte d'une situation en Algérie. L'Église catholique, elle est très discrète, elle veut pas verser l'huile sur le feu. Et c'est vrai qu'on sent bien quand même en off que ce sont des situations qui nous sont souvent rapportées. Le prosélytisme des évangéliques a parfois tendance, malheureusement, à attirer des ennuis à tout le reste de la communauté. On le voit par exemple aussi en Turquie, où il y a parfois des distributions de Bibles dans l'avenue Istiklal, qui est l'avenue principale d'Istanbul, avenue commerçante, aujourd'hui probablement d'ailleurs l'une des plus fréquentées d'Europe, vu le développement économique de la Turquie. Et voilà, ça, c'est des choses qui, vis-à-vis des autorités, passent très très mal. Et clairement, le ministère des Affaires religieuses ne fait pas forcément la différence entre un melkite et un évangélique. Et c'est une situation qu'on retrouve un peu souvent dans la région.
Alors, il y a évidemment, les situations sont extrêmement variables. On pourrait peut-être se transporter là du côté de l'Asie, parce que c'est d'abord parce que l'Asie représente aujourd'hui un des terrains d'expansion du christianisme. On a dit un mot de la Chine. Peut-être, alors en Chine, il y a cette particularité qu'il existe donc une église officielle et une église officieuse. Alors l'église officieuse, c'est l'église catholique qui est rattachée à Rome, qui demande que ses pasteurs soient, enfin ses évêques particulièrement, soient nommés par le pape, comme ça se fait habituellement. Et puis il y a une église officielle qui reconnaît comme pasteur suprême le Christ, Dieu merci, mais est organisée par le pouvoir en place. Alors là, c'est un gros problème, hein, la Chine. C'est un gros problème. Alors comment ça se passe, quelles sont les conséquences concrètes pour les fidèles?
Alors ça, c'est vrai que c'est le gros problème de la Chine depuis les années 50, hein, comme tu l'as bien résumé. En Chine, on a en fait deux questions chrétiennes. Il y a la question catholique, avec les 12 millions de catholiques, où il y a ce bras de fer entre Rome et Pékin, qui à un moment donné, on avait cru sous Benoît XVI, avec la lettre de Benoît XVI aux fidèles chinois, qui était clairement une sorte d'appel du pied en disant, voilà, réunifiez-vous sur le terrain, et voilà, et la grâce fera le reste et tout rentrera dans l'ordre. Ça a été pris comme une forme de trahison de la part de ceux qui continuent encore d'exister clandestinement. Aujourd'hui, c'est au cas par cas, la situation est quand même très très tendue. C'est vrai qu'à chaque fois, une nomination d'évêque repose ce problème fondamental d'un pouvoir qui ne supporte pas la présence de l'Église catholique reliée à Rome parce qu'elle le voit comme une ingérence sur son territoire, tout est traduit en termes éminemment politiques, et d'une Église catholique qui a besoin de ce principe, c'est un principe de communion, donc à partir de là, elle ne peut pas faire de concessions. Et donc là, on a vraiment affaire à quelque chose de compliqué qui continue de se développer au cas par cas sur le terrain. Mais sur ce qui est intéressant, c'est que Dorian Malovitch, qui est responsable de la rubrique Asie au journal à la Croix, et s'est rendu sur place, on l'a envoyé sur place, et ce qu'il raconte, c'est vraiment intéressant parce qu'en réalité, les choses sur le terrain sont beaucoup moins tranchées qu'elles ne semblent. Il y a des évêques qui célèbrent aussi bien avec les officiels qu'avec les officieux. Voilà, il y a quelque chose là qui, suivant aussi les endroits où on va se trouver en Chine, les pouvoirs locaux sont plus ou moins à cheval sur la répression. Et donc, finalement, on a affaire à des situations très variées, très étonnantes. Et surtout, on se rend compte du dynamisme incroyable de cette église en Chine, où il y a 12 millions de catholiques, 14 millions de catholiques, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, 40 à 100 millions d'évangéliques. Et là, c'est probablement la plus forte accélération démographique de l'histoire du christianisme qui est en train de se dérouler en Chine. C'est la priorité pastorale aujourd'hui du Vatican, parce que le christianisme est en train aujourd'hui de devenir africain et asiatique. Jean-François Colosimo le raconte très très bien dans une espèce d'essai un petit peu incroyable de 25 pages où il rend compte un peu de l'évolution du christianisme des origines à aujourd'hui. Après le temps méditerranéen, vous avez le temps atlantique et enfin le temps pacifique, et ce christianisme qui ne cesse de muter en passant d'un point du globe à l'autre. Et c'est vrai que là, il y a le grand point d'interrogation aujourd'hui posé sur l'Asie.
Si le temps pouvait être pacifique, ça serait bien, hein. Mais enfin, on parle de l'océan. Alors, en Chine, ce qui est intéressant, c'est que la grande ambition du pape, une des grandes ambitions du pape François, c'est d'aller en Chine, hein, c'est de faire enfin qu'un pape se rende sur le sol chinois. Je me souviens que lorsqu'il est allé en Corée récemment, quand son avion a survolé la Chine, il a envoyé un message aux autorités chinoises pour signaler sa présence. Les Chinois l'avaient remarqué d'ailleurs, pour donc saluer le peuple chinois, et évidemment la perspective d'un voyage papal donc dans l'Empire du Milieu, ça serait évidemment quelque chose d'énorme, hein. Alors quelles sont les chances que ça se produise? Est-ce que ça doit passer par un accord entre guillemets politique sur la réunification des églises en Chine?
Alors ça, probablement, ce qu'on peut toujours constater pour le moment, c'est que le pape encercle la Chine. C'est-à-dire qu'il s'est déjà rendu en Corée, il va aller au Sri Lanka, il va aller aux Philippines. On voit quand même bien à quel point l'Asie aujourd'hui fait quand même partie des priorités. Alors, à titre personnel, quand même, un voyage du pape à Pékin, je ne le sens pas dans les prochains mois, voire pas les prochaines années, parce que déjà, s'il arrivait à se rendre à Moscou, ce serait déjà pas si mal, et ce n'est pas non plus à l'ordre du jour, alors qu'a priori, on pourrait quand même penser que le passif est moins important. Bon, vous me permettrez juste d'être un petit peu pessimiste sur les prochaines années, mais pourquoi pas on n'a pas l'impression quand même que sur le terrain, les Chinois baissent la garde.
Alors, il y a un endroit où il ne se rendra certainement pas dans un avenir humain, c'est dans la Jérusalem de l'Est. Alors, qu'est-ce que c'est que la Jérusalem de l'Est?
Alors, c'est Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. La Jérusalem de l'Est, c'était son nom jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où c'était une terre de mission. Aujourd'hui, on a intitulé ce chapitre sur la Corée du Nord « Rayé de la carte ». Rayé de la carte, pourquoi? Parce qu'au fond, on ne sait pas déjà exactement combien il peut y avoir de chrétiens là-bas, probablement plusieurs dizaines de milliers au minimum. Beaucoup croupissent dans des camps avec un traitement encore plus dur que les autres prisonniers. Ce qu'on connaît d'eux, on le sait grâce au témoignage de beaucoup de gens qui parviennent malgré tout à s'enfuir de la Corée du Nord. En général, ils passent par la Chine. On les retrouve aussi beaucoup en Corée du Sud. Beaucoup sont recueillis par des associations évangéliques. Ils sont aussi souvent invités à se convertir. Voilà, tout ça est assez entremêlé. Mais il y a quand même, du coup, certes, il y a les nouveaux convertis où parfois c'est difficile de vraiment voir clair dans leur témoignage ou de les authentifier complètement. Le témoignage de Hiwoo, qu'on a eu grâce à l'ONG Protestantes Portes Ouvertes, est très intéressant parce qu'elle n'est pas toute jeune, Hiwoo, elle a 70-75 ans. Et donc, c'est un âge suffisant pour qu'elle ait des souvenirs dans les années 50, lorsqu'elle était encore enfant. Elle se rappelle de sa mère qui, dans la cuisine, remuait les lèvres, avait parfois des gestes qui lui échappaient. Et c'est tout à fait typique de cette génération qui a connu la chape de plomb du régime s'abattre sur la Corée du Nord. Elle s'est rendue compte à 50 ans de distance, après avoir elle-même découvert le Christ dans les années 90, que sa mère était chrétienne et qu'elle priait et qu'elle s'abstenait de le lui dire. Il n'y a qu'une fois ou deux où elle lui a dit « Surtout, ce que tu viens de voir, n'en parle jamais ». Et c'est la réalité aujourd'hui en Corée du Nord. Se réunir et se tenir par la main, porter les yeux vers le ciel, ou avoir une attitude de prière, c'est-à-dire finalement de s'adresser à autre chose ou de reconnaître autre chose que l'autorité politique de la famille régnante, ça vous vaut tout de suite un aller simple pour les camps de concentration. Et c'est un témoignage d'une force inouïe, parce que justement, elle porte avec elle toute l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, la vie qu'elle mène depuis 15 ans, les témoignages qu'elle donne aux quatre coins du monde authentifient vraiment, à travers sa personne, ce que vivent les chrétiens en Corée du Nord.
En Corée du Nord, oui. Je précise la Corée du Nord parce que la Corée du Sud, elle
ça donc, va plutôt
est une société où le christianisme est très dynamique.
Alors, juste, oui. Ce témoignage, on l'a accompagné, et ça c'est très intéressant, du reportage d'un journaliste britannique qui a fait un reportage qu'on dit embedded, c'est-à-dire embarqué, avec les autorités nord-coréennes, parce que c'est pas possible évidemment d'entrer dans le pays autrement. Et là, c'est intéressant pour ne pas dire drôle à certains passages, parce que évidemment, les autorités cherchent à donner le change. Ils montrent les deux ou trois églises qui sont des coquilles vides, en réalité avec des faux fidèles et des curés en carton-pâte dans le centre de Pyongyang. Et regardez, chez nous, la liberté religieuse, etc., applaudissez. Et donc, évidemment, ils décryptent tout ça. Et notamment, en plus, il se met à un moment donné en scène avec les autres membres de la délégation, dont Caroline Cox, qui est la parlementaire britannique de la Chambre des Lords, qui a piloté les travaux du Parlement britannique sur la liberté religieuse, qui a également écrit un article dans le livre, et elle était présente avec lui. Et donc, il met en scène cette délégation britannique face aux fonctionnaires nord-coréens et le dialogue complètement ubuesque qu'ils ont entre eux, où ils cherchent à pousser son interlocuteur dans ses retranchements. Mais là, on voit quand même la puissance de formatage du régime qui est encore là, et c'est très impressionnant.
Alors il y a quand même un continent dont on a très peu parlé, c'est l'Afrique, même si on a évoqué la situation au Maghreb. En Afrique, point commun avec la Chine, par exemple, c'est la dimension démographique, puisque il y a une explosion démographique en Afrique, qui donc toute l'Afrique, hein, quasiment toute l'Afrique, et alors, notamment les pays où le christianisme était bien répandu, donc pour un pays comme le Nigeria, par exemple, où la population chrétienne donc explose, c'est le cas dans un certain nombre de pays. Alors là, les choses se passent pas très bien, parce que on a là pour le coup des conflits armés, des violences frontales. Les Français le savent bien puisqu'ils sont allés s'interposer en Centrafrique, donc le pays est virtuellement coupé en deux entre un sud chrétien maintenant et un nord-ouest musulman. Mais la situation était tout aussi préoccupante au Nigeria où une secte musulmane extrémiste, Boko Haram, enlève. Récemment encore, avant-hier, 185 personnes ont été enlevées et une partie assassinée. Voilà. Et donc, ça occasionne des troubles et aussi des réponses. Alors peut-être pas sous la forme de milices comme en Centrafrique, mais des conflits violents, armés parfois, dans des pays où l'avenir est quand même très incertain. Ouais.
Alors c'est vrai que l'Afrique, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avançait dans l'enquête, on s'est dit, on a mis le Proche-Orient en avant, parce que grosso modo le Proche-Orient c'est presque en volume la moitié du livre. On s'est dit, est-ce qu'on ne mettrait pas l'Afrique ? Parce que certes c'est moins de pays, c'est des problématiques sans doute, c'est moins ancien, c'est moins ancré dans les esprits, mais justement c'est aussi ça qui est nouveau et on a du mal aujourd'hui à avoir un discours structuré, à comprendre vraiment où va l'Afrique subsaharienne. On a plutôt affaire à une juxtaposition de théâtres tous plus calamiteux les uns que les autres, si on pense au Nigeria ou au Centrafrique. Au Centrafrique, il y a l'archevêque de Bangui, Mgr Nzapalenga, qui était passage en France au mois d'avril et qui racontait, c'était très très touchant, bouleversant, cette façon dont il essayait de se mettre en travers de ses fidèles qui avaient subi des persécutions pendant toute l'année 2013 et qui était, c'est au moment où le pays basculait, c'est-à-dire que après ces violences dirigées contre les chrétiens s'apprêtaient à répondre, parce qu'il y a quand même malheureusement des exceptions où les chrétiens rentrent malgré tout dans cette logique de violence. Et il faisait part de son désespoir face à des gamins de 13, 15 ans qu'il avait lui-même connus au caté ou dans la paroisse et qui lui disaient « Monseigneur, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais je ne me sentirai mieux que quand j'en aurai tué un. » Et là, en tant que pasteur, il sentait un peu ses limites. On est dans une situation au Centrafrique complètement chaotique. Il y a celle du géant voisin gorgé de richesses minières, la République démocratique du Congo, où on raconte l'histoire de religieux enlevés. Alors, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis 2 ans, on n'a eu aucune nouvelle. Ce sont des religieux assomptionnistes qui vivaient au Nord Kivu. Là, vraiment, c'est tout à fait révélateur d'un visage de l'Église universelle qui est missionnaires qui vivent au sein de la population et qui, quelle que soit le degré de dégradation des sociétés, là on a affaire vraiment à un territoire complètement victime de razzias, aussi bien de l'armée elle-même que des différentes guérillas, ils restent sur place et un jour pour eux ça se termine comme ça et on n'a pas de nouvelles et malgré tout la congrégation reste sur place et continue de faire son travail d'éducation. Voilà, donc c'est un visage qu'on a voulu mettre en avant et il y a évidemment au Nigeria, ce phénomène aussi qu'on a du mal à comprendre, qui est dirigé contre l'Occident, mais dont on voit bien que les chrétiens sont une cible privilégiée parce que déjà, ils ont bien compris que ça fait beaucoup parler en Europe, ça émeut les foules, donc plus on en égorge, plus on en parle, et aussi quand même cette dynamique qu'on retrouve quand même, et qui est quand même structurante en Afrique, qui est que comme les chrétiens occupent essentiellement le sud du Nigeria, et que c'est là que se concentrent les richesses du sous-sol, il y a quand même un effet de panique de la part notamment de l'islam wahhabite de perdre le contrôle sur ses richesses et donc d'encourager la déstabilisation du pays pour tenter de reprendre la main sur ses richesses. Donc il y a quand même des clés de lecture qui sont opérantes aussi à travers le continent. Il y a aussi quand même ce cas dont on parle très très peu du Soudan. Le Soudan, c'est 2 millions en gros de chrétiens qui ont été tués au cours de ces 40 dernières années à la faveur d'une sorte de nettoyage religieux du nord du pays qui a abouti à une partition donc, du pays en 2011. Et ça, c'est Sébastien Fatt, qui est un spécialiste du monde évangélique, qui rend très bien compte parce qu'il a réorienté récemment ses recherches sur l'Afrique subsaharienne. Il s'est rendu pour le CNRS 3 semaines sur place et ce livre a pu bénéficier finalement de 3 semaines d'enquête de journaliste, mais par un universitaire chevronné qui rend très très bien compte de cette situation de désespoir total pour des chrétiens massés dans le sud qui ont rien finalement pour pouvoir décoller, et du témoignage de Naomi Baki qui raconte cette traversée incroyable qu'elle a connue, elle et sa famille, durant toutes ces années de guerre dans les années 80 et qui aujourd'hui est réfugiée en France, hein, comme beaucoup de Soudanais.
Alors, il y a encore, bon, évidemment, on ne peut pas parler de tout. Il y a quand même deux questions qui nous concernent, nous, directement. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il faut un livre noir ? Bon, alors, on en a parlé, hein, il se passe beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi conscient qu'on pourrait, sur la situation qui est faite à nos co-religionnaires dans le monde entier ? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Hein, alors, pourquoi est-ce que, finalement, le message a du mal à passer ? En Europe, en France, en Europe, dans le monde développé, on va dire, en tout cas dans le monde qui bénéficie de la liberté religieuse, pourquoi est-ce que la situation de ces personnes à travers le monde qui devraient nous être si chères, pourquoi cette situation, on la connaît pas ou on n'y fait pas très attention, première chose. Et deuxième chose, c'est à partir du moment où on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, alors évidemment, il y a peut-être des dons, des choses à faire comme ça, mais des voyages, mais qu'est-ce que la société, les sociétés occidentales, les pouvoirs politiques aussi peuvent faire pour essayer de faire changer cette situation, hein, pour faire baisser ce niveau de persécution.
Alors, Régis Debray avait eu ce mot assez efficace que John Allen, le vaticaniste américain, reprend ici dans son papier, qui est, au fond, les chrétiens, ils sont trop chrétiens pour intéresser la gauche et ils sont trop étrangers pour intéresser la droite. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Et donc, ce qui fait que voilà, ça fait un chassé-croisé où malheureusement, ces chrétiens du monde entier, vu d'Europe et en particulier de France, n'ont pas trop la cote. Et alors, c'est vrai que sur ce constat un petit peu provocateur, on peut quand même bâtir quelques suppositions. C'est vrai que le catholicisme ayant été très longtemps la religion dominante dans un pays qui aujourd'hui s'est bâti précisément contre cette religion, même si les choses sont un peu plus apaisées, quoique depuis quelques décennies, forcément il reste dans les têtes l'idée que le christianisme ne peut pas, après avoir été ce qu'il a été en Europe, être aujourd'hui en situation de persécution. Et donc il y a un effet de distorsion. Les gens ne savent pas fondamentalement que le christianisme est aujourd'hui une religion du Sud, à plus des deux tiers, et que par conséquent, il est aujourd'hui dans des sociétés qui sont en proie à beaucoup de violence et d'instabilité, et que donc il en paye les pots cassés. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, et qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir. Il y a aussi, après, suivant les pays, tu parlais tout à l'heure du laïcisme ambiant, donc c'est une question un petit peu suspecte. C'est aussi pour ça que le livre, on l'a conçu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on voulait désenclaver fondamentalement la question. On voulait cesser d'en faire, au fond, le cheval de bataille, uniquement des chrétiens dans leurs églises, en allant chercher des intellectuels qui sont pas forcément chrétiens, ou qui ne s'affichent pas comme tels, ou qui ne le sont pas du tout, ou qui se proclament carrément athées comme André Comte-Sponville, en demandant aussi la caution, mais étayée, de gens qui sont des musulmans comme Tarek Oubrou, vous connaissez un peu plus ici peut-être qu'ailleurs en France, ou le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui quand même, je trouve, a eu ce courage à un moment où sa propre communauté critique la France parce qu'elle pense qu'on ne peut pas y vivre tranquillement et donc rejoint Israël, a quand même ce courage de dire « Attendez, aujourd'hui, si on ouvre les yeux sur le reste du monde, les chrétiens, ça va pas très bien pour eux. » Son texte, notamment, raconte cette histoire magnifique du tombeau du prophète Nahum, qui est à Al-Kosh, dans la plaine de Ninive, aujourd'hui occupée par l'État islamique, qu'on est allé visiter avec le cardinal Barbarin, un après-midi où il faisait 50 degrés au soleil. Bernard Barin était très ému de voir cette tombe dans une synagogue croulante, abandonnée par les dernières communautés juives depuis 1948, année de la fondation d'Israël. Et les Juifs avaient remis les clés de la synagogue aux chrétiens en disant « Maintenant, c'est vous qui allez protéger les lieux. » Aujourd'hui, c'est l'État islamique qui a chassé les chrétiens de cet endroit. Et c'est là-dessus, sur ce symbole, que Chaim Korsia a bâti son texte. Ce qui est quand même quelque chose de très fort. Donc, en faisant appel à toutes ces sensibilités, on a voulu sortir cette question-là de l'ornière communautariste. C'est pas un combat uniquement communautariste. Il aurait des raisons, je veux dire, on peut parfaitement, parce qu'on est chrétien, c'est même peut-être la première raison, se mobiliser pour les chrétiens du Proche-Orient et du monde entier. Simplement, on a voulu montrer dans une société, dans la société française qui demande quand même de montrer patte blanche toutes ces questions, vous êtes sûr que ce n'est pas uniquement un mobile religieux, ben voilà, non. Et en faisant aussi bien appel à plusieurs genres, celui du témoignage, du reportage, de l'analyse, par des universitaires, des observateurs indépendants, voilà, ce livre-là, c'est le premier du genre qui désenclave la question et qui la porte sur un terrain universel, qui est la défense des droits de l'homme, comme tu le disais au début. Voilà pour la première question.
Alors la seconde, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors,
qu'il faut faire?
Ce qu'on peut faire, alors c'est vrai que d'abord, il y a un sentiment d'impuissance, il faut le reconnaître. C'est avec nos petits bras, changer toutes ces situations, ça peut sembler dans un premier temps... impossible. Je pense que s'informer, c'est déjà énorme. Ça permet déjà de prendre conscience et aussi de simplement d'en parler autour de soi. Je pense que là, il y a un travail en profondeur et ce livre, à sa mesure, veut y contribuer. Je pense que d'abord, il y a l'avoir voulu le concevoir comme un objet grand public. C'est donc ne pas simplement vouloir s'intéresser aux quelques milliers de lecteurs concernés a priori, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que cette question passe le mur du son. Deuxièmement, il y a évidemment tous ces organismes que vous connaissez déjà. On leur a donné la parole à la fin du livre parce qu'ils font un vrai gros travail de recensement, d'informations, d'alertes, de collecte de fonds. Je pense à l'aide à l'Église en détresse, je pense à l'œuvre d'Orient, je pense à Portes ouvertes, il y en a d'autres. Mais aussi, on a voulu leur donner la parole parce que, voilà, ils ont, eux, des réseaux qui sont en permanence sur le terrain. Il faut les faire connaître aussi. On n'a pas voulu non plus complètement caler notre travail sur leurs appareils statistiques, parce que précisément on voulait faire ce travail indépendant, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc passer par ces organismes-là, c'est une façon très concrète et sûre de venir en aide à toutes ces communautés. Ensuite, je dirais qu'il y a des leviers un peu plus macro, et ça, c'est évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est quand même dans l'esprit du livre. Il y a des instruments qui existent, l'article 18 pardon, de la... C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, pose comme principe fondamental la liberté de conscience et de religion. Or, il manque tous les protocoles d'application de cet article. C'est pour ça que Caroline Cox, cette parlementaire britannique dont je vous parlais tout à l'heure, parle dans son article d'un droit orphelin. Ce droit orphelin, il est aujourd'hui à défendre dans les instances multilatérales. Et donc il y a un combat politique à mener, qui progresse d'ailleurs. Les États-Unis se sont dotés carrément d'une commission avec un rapport annuel. Bon, c'est à l'américaine, on distribue les bons et les mauvais points tous les ans avec la publication d'un rapport voilà, sur l'état de la liberté religieuse dans le monde. Le Parlement britannique a fait ses propres travaux, dont Caroline Cox rend compte. L'Union européenne aussi s'est dotée maintenant d'une instance, alors c'est encore un peu une coquille vide, mais c'est mieux que rien. On observe même finalement que les gouvernements, de droite ou de gauche, commencent à en parler. Même Laurent Fabius, devant l'Assemblée nationale, en a parlé à la fin de l'année dernière. Bref, que ce soit contraint ou forcé par l'opinion, on sent quand même qu'il y a une mobilisation. Ce n'est pas le silence que c'était il y a 10 ans. Voilà sur le plan politique. Sur le plan religieux, enfin... c'est quelque chose dont on avait parlé avec l'éco-directeur et qui est un peu en gestation. Mais il y a quand même cette idée que ce serait intéressant de réussir à produire un document une charte qui mettrait hors la loi, au fond, tous les responsables religieux, enfin signée par tous les responsables religieux, qui mettrait hors la loi tous ceux qui entendent utiliser leur religion de manière dévoyée, détournée pour encourager la violence. Il s'agirait en quelque sorte de responsabiliser de manière visible, officielle, chaque religion vis-à-vis de ceux qui s'en réclament. On a quand même observé cet été qu'il y a eu des prises de parole dans le monde musulman. Ça a été long, mais pour finir, c'est quand même arrivé, notamment avec la déclaration de Paris qu'on a reproduite ici. Tarek Oubrou qui a repris sa plume pour expliquer, pas seulement condamner en disant l'État islamique c'est pas bien, mais avec des arguments théologiques et juridiques internes à l'islam pour le condamner. Alors évidemment lui il fait ça depuis Bordeaux, donc ça c'est moins de risques, mais c'est quand même déjà bien de le faire. Il prend moins de risques que si on le fait depuis le Proche-Orient ou ailleurs. Il y a dans les instances islamiques mondiales quand même un début de prise de parole. Il y a une Arabie Saoudite qui est bien connue pour jouer sur deux fronts en même temps, qui a du mal à sortir de son ambiguïté, mais qui semble quand même elle-même effrayée par le monstre qu'elle a nourri de manière officielle ou officieuse, et qui donc aujourd'hui commence voilà, aussi à se rendre compte que le wahhabisme, si ça a pu servir ses intérêts, ça peut aussi se retourner contre elle, du moins sa diffusion accélérée. Donc voilà, sans être béni oui-oui, sans repeindre le monde en rose, ce qu'il faudrait, c'est impliquer les religions elles-mêmes, par la voix de leurs propres responsables, dans cette idée de mettre hors la loi ceux qui détournent la religion, leur religion, à des fins de violence ou d'oppression.
Voilà, bah écoutez, c'est vrai que ça ouvre un volet parce que politique à ce débat. Je voudrais pas peut-être trop le prolonger, puisque vous avez peut-être envie donc de faire connaissance de Samuel, qui est donc venu nous présenter ce livre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, et j'espère que surtout ce sera, vous pourrez en parler autour de vous, et peut-être pendant ces fêtes, après la joie des retrouvailles, peut-être vous plonger un petit peu dans ces témoignages qui ne sont pas tous drôles, mais qui sont extraordinairement éclairants.
Alors c'est vrai qu'un livre noir sous le sapin, ça peut sembler un peu tristouné. En même temps, je pense que ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est qu'à travers, évidemment, tous les drames qui peuvent être racontés dans ce livre, parce que c'est pour ça qu'il existe aussi, il y a aussi quand même une vitalité, une diversité, un tour du monde, j'allais dire, de la foi chrétienne, qui se dessine en filigrane. C'est-à-dire, au fond, si on fait le tour du monde, c'est aussi parce que les chrétiens sont précisément partout dans le monde. S'ils souffrent dans beaucoup d'endroits, ils sont aussi, ils sont pas en train de disparaître pour autant, je dirais même bien au contraire. Et donc c'est aussi un hymne à la vivacité et à la diversité du christianisme, ce livre. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on en ressort, enfin, je l'espère quand même, un petit peu transformé.
J'aurais bien voulu faire cette conclusion, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup.